Voilà, bonjour à tous. Alors, on va commencer par une image. Voilà, c'est 9 points. Alors, c'est une énigme que j'avais une fois lors d'un cours. Je ne me rappelle plus quel cours c'était, si c'était dans le cadre professionnel ou autre. Voilà, il y a ces 9 points qui sont dans un cadre et on doit les relier avec seulement 4 traits. Alors, est-ce que c'est possible? Et si oui, comment? Alors, comme il y en a qui n'ont pas l'image parce qu'ils écoutent via la chaîne YouTube de l'Église, je vais quand même essayer de décrire l'image. Donc, on a 9 points à intervalles réguliers sur 3 colonnes horizontales et 3 colonnes verticales. Et autour, il y a un cadre qui est assez proche des points. Comment relier ces 4 points avec seulement 4 traits? Est-ce que quelqu'un sait? Voilà, exactement. Bon, il y en a qui connaissaient le truc. Voilà, en fait, la seule solution, c'est de sortir du cadre. Et qu'est-ce qu'un cadre? En fait, un cadre, c'est des limites. Mais d'accord. Hein? Et le cadre, en fait, il va empêcher de relier ces 9 points, à moins qu'on enlève, on aurait aussi pu enlever le cadre ou sortir du cadre. Quand on voit ce cadre avec ces 9 points, ben, c'est vrai qu'au premier abord, on ne pense pas forcément qu'on a le droit de sortir de ce cadre. Hein? Donc on essaye de relier les 9 points, puis ça ne marche pas. En fait, il y a ces limites qui conditionnent, hein? c'est comme des barrières. Et les limites dans la vie, ben, elles sont parfois nécessaires. Hein? Voilà. Peut-être que vous avez mis une barrière autour de votre jardin, alors ça empêche peut-être des cambrioleurs de venir, ou les chats, les chiens du voisin, ou que sais-je. Mais les barrières, c'est aussi des obstacles. Ça empêche d'entrer, mais ça empêche aussi de sortir. Et Dieu est illimité, mais Dieu, il a mis des limites à tout. En fait, quand il a créé l'univers, eh bien, il a instauré déjà des limites. Quand il a séparé les éléments, par exemple, il a séparé la lumière des ténèbres, ou il a séparé le ciel de la terre, ou il a séparé la terre de l'eau, ben, il a mis des limites à chaque chose. Et puis, il a aussi délimité le territoire d'Israël. Ça, on trouve plusieurs passages dans la parole où Dieu dit à Israël, ben, votre territoire, il ira de là jusque-là et de là jusque-là. Et puis, il a aussi instauré toutes les lois, qu'elles soient des lois physiques, qu'elles soient des lois morales, hein, les commandements aussi, tout ce qu'il a donné, ou des lois spirituelles, eh bien, il y a des limites. Donc, Dieu a voulu qu'on soit dans certaines limites, alors que lui-même est illimité. Puis, en fait, le fait que nous sommes limités, ça nous différencie de notre Créateur. Donc, il y a nos limites qui sont voulues par Dieu. Et puis, il y a aussi les limites qu'on se met soi-même. Et puis, pire que ça, il y a les limites qu'on met à Dieu. Alors, ça, c'est un peu comme ce cadre, en fait, qui empêche vraiment le lien, déjà. Qui empêche le lien et qui va enfermer. Donc, on limite Dieu quand on le ramène à nos propres limites, à nous, à notre image. On met Dieu dans une boîte, on le met dans un cadre, alors qu'il est beaucoup plus grand que ça. Et puis ça empêche en fait le Seigneur, bon, il pourrait le faire bien sûr, mais quelque part ça l'empêche d'œuvrer en nous et au travers de nous comme il aimerait le faire. Et puis on voit que ce cadre... il comporte 4 côtés, hein, mais il pourrait y en avoir plus ou moins, ce serait toujours un cadre, mais d'accord. Alors, je vais développer en fait 4 points, 4 sortes de limites qu'on met à Dieu, et puis comment on peut ôter ces limites. Et le titre de mon message, c'est « Ne limite pas Dieu ». Alors, la première limite, c'est l'incrédulité. Et on va lire dans Matthieu 13... les versets 54 à 58. Donc, il est parlé de Jésus. Jésus se rendit dans sa patrie et il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui vient donc tout cela? Et il représentait un obstacle pour eux, hein, une limite, une barrière. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa famille. Il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit à cause de leur incrédulité. En fait, Jésus aurait pu faire beaucoup plus de miracles à ce moment-là, dans cet endroit. Mais parce qu'il y avait cette incrédulité, ça mettait une barrière, ça mettait un obstacle à ce que le Seigneur aurait aimé faire. Et puis dans Hébreux 3, versets 12 et versets 16 à 19, il est parlé des Israélites lorsqu'ils étaient dans le désert. Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Qui s'est en effet révolté après avoir entendu? N'est-ce pas tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Contre qui Dieu a-t-il été irrité pendant 40 ans? N'est-ce pas contre ceux qui avaient péché et dont les cadavres sont tombés dans le désert? Et à qui a-t-il juré qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Ainsi, nous voyons qu'ils n'ont pas pu y entrer à cause de leur incrédulité. Alors, les Israélites, quand ils étaient dans le désert, c'est vrai qu'ils étaient souvent rebelles. Et puis, lorsque Josué a envoyé des espions pour... envoyé des espions pour explorer le pays, il y en a 10 des 12 espions, il y en a 10 qui sont... venus disant mais c'est impossible, on ne va jamais pouvoir entrer dans ce pays, il y a des géants, etc. Et on ne pourra pas. Et à cause de cette incrédulité, eh bien, Dieu a fait que les Israélites tournent pendant 40 ans dans le désert et cette génération-là n'est pas entrée dans le pays promis, qui représentait le repos. Et en fait, on voit que dans ce texte, on voit que l'incrédulité amène à la désobéissance, à la rébellion. Et ça prive d'entrer dans le repos de Dieu, dans ce que Dieu a prévu pour nous. L'incrédulité conduit à la désobéissance, c'est aussi logique. Parce que si on ne fait pas confiance à Dieu, ben, on ne va pas lui obéir. Hein? On ne va pas écouter ce qu'il nous dit. Si on ne croit pas à ce qu'il nous dit, ben comment on va pouvoir lui obéir? Donc voilà pour l'incrédulité. Bon, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais... On va passer aussi aux autres limites. Deuxième limite, que j'appellerais le procédé ou le protocole, c'est-à-dire les formes, le rituel, les règles, la façon de faire. Et il y a une histoire qui illustre bien cela, c'est l'histoire de Naaman le Syrien. Alors, on ne va pas tout lire cette histoire, vous pouvez la retrouver dans 2 Rois 5. On va lire les versets 1 à 3 et 9 à 14. Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur et de l'estime de son seigneur, car c'était par lui que l'Éternel avait donné la victoire aux Syriens. Toutefois, cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens avaient mené des expéditions, et ils avaient ramené prisonnière une petite fille du pays d'Israël. Celle-ci était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut indigné et il s'en alla en disant, « Je me disais, il sortira en personne vers moi, il fera appel au nom de l'Éternel son Dieu, il fera un mouvement de la main sur l'endroit malade et guérira ma lèpre. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne va-t-il pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver pour devenir pur? » Il tourna le dos et il partait plein de colère. Lorsque ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler, ils dirent, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Tu dois d'autant plus volontiers faire ce qu'il te dit. Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors se plonger 7 fois dans le Jourdain, conformément à la parole de l'homme de Dieu. Sa chair redevint comme celle d'un jeune enfant et il fut pur. Naaman, il avait une idée très précise de comment il allait être guéri. Hein. Voilà, ça va se passer comme ceci, comme cela. Le prophète, il va venir vers moi, il va faire un mouvement de la main, et puis il va me guérir. Et puis, comme ça ne s'est pas du tout passé comme ça, bah, il était fâché, puis il s'est dit, bah, voilà, je ne vais pas être guéri, ce n'est pas possible. Quoi. Et je me dis, mais parfois, est-ce qu'on n'est pas comme ça avec Dieu? Quand on prie, est-ce qu'on ne dit pas au Seigneur des fois, ah ben, Seigneur, tu pourrais faire comme ci, tu pourrais faire comme ça, tu pourrais faire comme ça. Hein? On lui donne des idées, en fait. On donne des idées à Dieu. Mais il n'y a pas besoin qu'on lui donne des idées. Et j'ai l'impression que Dieu, en fait, il s'amuse à justement faire autrement que ce qu'on pensait pour montrer qu'en fait, ben, il est plus malin que nous, quoi. Hein? Voilà. Il est Dieu, exactement. La troisième limite, c'est l'incompréhension du plan de Dieu. Alors, quand Jésus est venu sur terre, en fait, il n'a pas été reconnu par les Juifs comme le Messie. Enfin, juste par quelques-uns, mais la plupart ne l'ont pas reconnu. Pourquoi ? Parce que les Juifs étaient convaincus que quand le Messie viendrait, eh bien, il allait les délivrer de l'oppression des Romains. Voilà, si Jésus était vraiment le Messie, il allait chasser les Romains, établir son royaume, et puis Israël serait tout bien. Et en fait, ils n'avaient pas compris que le Messie devait d'abord souffrir, être rejeté, souffrir, être crucifié, et ensuite ressuscité. Et puis Jésus, il a averti ses disciples, il les a préparés à plusieurs reprises. On voit dans les évangiles qu'il explique à ses disciples qu'il va être rejeté, qu'il va mourir, qu'il va être crucifié, qu'il va ressusciter. Puis les disciples, ils ne comprenaient rien du tout. Parce qu'ils étaient tellement dans cette optique, mais ce n'est pas possible. Le Messie, quand il viendra, il va établir son royaume, puis tout va bien aller. Et puis le résultat, ben, c'est que quand Jésus était sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, les gens, ils se moquaient de lui, disant, mais ouais, il a guéri, il a délivré les autres, il a sauvé les autres, puis il ne peut pas se sauver lui-même. C'est quoi ? Et les disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris la fuite. Et même après la résurrection de Jésus, ils n'avaient encore pas compris que Jésus n'était pas venu établir un royaume terrestre, mais un royaume spirituel. Dans Acte 1, verset 6, donc ça c'est après la résurrection de Jésus, alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Ils étaient toujours là-dedans. Puis Jésus leur a dit, « Attends, il y a encore un petit bout de temps jusque-là. Hein. » Et ne pas comprendre, en fait, le plan de Dieu, ben, ça conduit au découragement, voire même peut-être à l'abandon de la foi ou l'abandon du service. On verra après, quand j'aurai fini avec les quatre points, enfin il ne reste plus qu'un, comment aussi passer par-dessus ces limites-là. Hein. Il y aura des clés pour ça. Toujours dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup de versets, mais je crois que c'est important de vraiment mettre la parole au centre. Et la quatrième limite, c'est notre vécu. Alors notre vécu, ça inclut nos connaissances, nos expériences, nos blessures, nos échecs, nos manques, manque de moyens, nos limites, justement. Et notre vécu fait souvent écran à la puissance de Dieu. Parce qu'on a vécu telle et telle chose, ça nous bloque pour avancer. Un bon exemple, c'est avec Moïse. Alors, on va lire quelques passages lorsque Moïse a été appelé par Dieu. Tout d'abord, avant ça, on va lire dans Exode 2, versets 11 à 15. Une fois devenu grand, Moïse sortit vers ses frères et vit leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien frapper un Hébreu, un de ses frères. Il regarda de tous côtés, vit qu'il n'y avait personne et tua l'Égyptien qu'il cacha dans le sable. Quand il sortit le jour suivant, il vit deux Hébreux se battre. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Cet homme répondit alors, « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Est-ce pour me tuer que tu me parles, tout comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et se dit, « L'affaire est certainement connue. » Et là, il va s'enfuir au pays de Madian. Le pharaon apprit ce qui s'était passé et il chercha à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit loin de lui et s'installa dans le pays de Madian. Il s'arrêta près d'un puits. » fils est passé longtemps. Il est resté longtemps dans ce pays de Madian. Et en fait, quel devait être son état d'esprit? Il devait se dire, mais je suis nul, quoi. Voilà, j'avais à cœur de délivrer mon peuple, les Israélites, de l'esclavage du Pharaon. Et puis, ben, c'est loupé, quoi. Voilà, je n'ai pas été reconnu, on n'a pas compris que j'essayais de les aider. Et puis, ben, le résultat, ben, voilà, j'ai dû m'enfuir et je suis loin de tout le monde maintenant. Je suis là, perdu dans le désert, dans un pays étranger. Et puis, voilà, il n'y a rien qui va se passer avec moi. Et puis, un jour, ben, Dieu se révèle à lui et Dieu l'appelle. Il l'appelle pour délivrer les Israélites de l'esclavage d'Égypte. Et comment est-ce que Moïse va réagir à cet appel? On lit dans Exode 3, les versets 10 à 14 et le verset 18. Donc Dieu dit à Moïse, « Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ?» Dieu dit, « Je serai avec toi. Voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, « Le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je ? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « Voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. » En fait, Moïse se dit, « Mais qui suis-je ? Qui suis-je ? Et qu'est-ce que je vais dire ?» Et Dieu dit à Moïse, « Ils t'écouteront. Tu iras vers les anciens d'Israël trouver le roi d'Égypte et vous lui direz, « L'Éternel, le Dieu des Hébreux, s'est présenté à nous. Permets-nous maintenant de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. » Dieu dit à Moïse, « Ils t'écouteront. » Mais qu'est-ce que Moïse répond à ça? Exode 4, verset 1. Moïse répondit, « Ils ne me croiront pas et ils ne m'écouteront pas. Au contraire, ils diront, « L'Éternel ne t'est pas apparu. » Dieu dit à Moïse, les Israélites t'écouteront. Et Moïse répond à Dieu, mais ils ne m'écouteront pas. Pourquoi il dit ça? Il n'a pas confiance à Dieu? Pourquoi? À cause de ce qu'il a vécu avant. Comme il n'a pas été écouté quand il a voulu rendre justice à son frère qui se faisait taper par un Égyptien. Comme il n'a pas, on lui a dit, mais qui t'a établi chef et juge sur nous? On ne l'a pas écouté. Alors là, il va se dire, mais on ne va pas m'écouter. Voyez comment son vécu a fait blocage, en fait, à ce que Dieu disait à Moïse et ce que Dieu voulait faire avec lui. Il a vraiment perdu confiance. Et puis on va lire encore Exode 4, les versets 10 et 13. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler, et cela ne date ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même du moment où tu as parlé à ton serviteur. En effet, j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Et puis plus loin, il va encore dire, « Ah Seigneur, envoie quelqu'un d'autre que moi. » On voit qu'il avait vraiment, vraiment un gros, gros blocage. Mais le Seigneur a chaque fois répondu, puis finalement Moïse a quand même obéi à l'appel de Dieu. Mais c'est vrai que ça a été un combat, hein? Ça n'a pas été évident. Et on voit qu'en fait, pour nous, c'est pareil. Parfois, notre vécu peut nous empêcher d'aller plus loin que le Seigneur. Il y a des blocages parce qu'on a vécu des échecs. Parce qu'on a essayé peut-être de servir Dieu, ou de faire quelque chose, d'obéir à Dieu, puis ben, ça n'a pas marché, on s'est planté, il y a quelque chose qui n'a pas joué. On est des hauts et des bas, et puis on a de la peine à remonter. Et en fait, c'est comme une barrière qu'on met à Dieu, on limite Dieu, parce qu'on pense que Dieu n'est pas capable de faire quelque chose avec nous, alors que c'est lui qui nous donne les capacités. Il donne les moyens, il donne, s'il nous demande de faire quelque chose, il va pourvoir à ce qu'on puisse le faire. Il ne va pas nous demander quelque chose qui est impossible à ses yeux. Alors on va voir maintenant les solutions. Quelles sont les clés pour sortir de ce cadre ou pour briser ce cadre? Donc on a vraiment besoin d'abattre ces barrières pour justement voir le Seigneur agir déjà en nous, mais aussi au travers de nous. Pour ceux qui nous entourent. Alors, comment faire? Alors, on a parlé de l'incrédulité, hein, première barrière. Alors, l'antidote de l'incrédulité, c'est la foi, exactement. Alors, comment avoir plus de foi? Est-ce qu'il suffit juste de dire, ben, Seigneur, augmente ma foi? Bon, c'est pas mal, mais ça ne suffira peut-être pas. Hein? Alors, il y a une solution, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est la solution. Pourquoi? Parce que dans Romains 10, 17, il est mis, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, ou de ce qu'on lit, hein, si vous lisez la parole, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque nous nous nourrissons de la parole de Dieu, lorsque nous la lisons, la méditons, ça va augmenter notre foi automatiquement. Parce que dans la parole de Dieu, on voit qui est Dieu. Dieu se révèle au travers de sa parole. On voit qui il est, on voit tout ce qu'il fait, ce qu'il est capable de faire, ce qu'il veut faire. Et puis, vraiment, ça nous aide à grandir dans notre foi. Alors, lisons la parole de Dieu. C'est le verset de l'année aussi. Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc voilà, on revient là-dessus. Et puis, dans Hébreux 12, les versets 1 à 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est Jésus qui fait naître la foi et qui mène cette foi à la perfection. Donc c'est dans la relation avec Jésus, dans la prière, dans la recherche de sa volonté, dans l'écoute de ce qu'il nous dit personnellement, c'est dans cette communion avec lui que notre foi va grandir. Donc on revient toujours aux mêmes choses, hein, la lecture, la méditation de la parole, et la prière, la relation avec Dieu et avec les frères et sœurs aussi. On revient toujours à ça, mais c'est vraiment la base. Lorsqu'on tourne nos regards vers Jésus, notre foi, elle est fortifiée. Face au procédé, à la barrière du procédé, je crois que c'est important de ne pas se focaliser sur comment Dieu va agir, comment il va répondre. Parce que c'est vrai que quand on prie pour quelque chose, on imagine déjà que Dieu va pouvoir faire comme ci, comme ci et comme ça. Puis, ben, Dieu, des fois, souvent même il fait autrement. Alors si on se focalise sur une certaine forme de réponse, puis que ça ne vient pas, on va se décourager. Mais c'est important d'être ouvert à que Dieu, finalement, il sait mieux que nous comment il doit faire. Hein? Pas besoin de lui dire. Donc laissons-nous surprendre aussi, laissons-le faire comme il veut, répondre de la manière qu'il veut et dans le temps qu'il veut. Ésaïe 55, les versets 8 à 9, où Dieu dit « En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. » Et puis dans Romains 11, les versets 33 à 34, « Quelle profondeur ont la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller ?» Et face à l'incompréhension du plan de Dieu, je crois que là, on a vraiment besoin du Saint-Esprit pour nous révéler la pensée de Dieu, nous révéler les plans de Dieu. On a besoin que notre intelligence spirituelle soit ouverte. Parce qu'humainement, on ne peut pas comprendre les plans de Dieu. Ils sont tellement au-dessus de nos plans. Éphésiens 1, versets 17 à 19. « Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. On a vraiment que les yeux de notre cœur soient illuminés par le Saint-Esprit. Et puis, face à notre vécu, mais je crois que c'est important de remettre tout notre passé, nos échecs, nos blessures dans les mains du Seigneur, pour qu'il puisse, je veux dire, guérir, restaurer, et nous donner la vision que lui, il a de nous, comment lui, il nous voit, pas comment nous, on se voit nous-mêmes. Parce que parfois, quand on se regarde nous-mêmes, on se dit, je suis nul, quoi. Hein, mais quand on voit comment Dieu nous voit, qu'on est précieux pour lui, et ce qu'il veut faire avec nous, et qu'il est capable de, on voit dans la parole de Dieu comment il a pris les plus faibles, en fait, hein, les plus insignifiants pour faire de grandes choses avec eux. Il est capable aussi avec nous de faire la même chose. Connaître l'amour de Dieu qui restaure, qui guérit. Éphésiens 3, versets 16 à 21. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Être enraciné et fondé dans l'amour de Christ. Alors, en conclusion, c'est vrai qu'on a tendance, parce qu'on est humain et qu'on est limité, on a tendance à ramener Dieu à ce qu'on connaît, à ce qu'on est, en fait à notre échelle humaine, à ce qu'on sait, à ce qu'on ressent, à ce qu'on croit, à ce qu'on a entendu de lui. On ramène souvent Dieu et puis on le limite. Et en fait, on le met dans un cadre et on se prive des bénédictions qu'il aimerait nous accorder. On le conditionne, puis en même temps, on se conditionne nous-mêmes. C'est comme ces points dans le cadre qu'on ne peut pas relier à cause du cadre. Hein. Il faut sortir du cadre ou il faut enlever le cadre. On fait en quelque sorte Dieu à notre image. Mais Dieu, il est bien plus grand que ça. Hein. Il est tout puissant. Il est illimité, il nous dépasse complètement. Et il désire briser toutes ces barrières qu'on lui met et qu'on se met à soi-même. Pour rétablir le lien avec lui, mais le lien aussi entre nous. Alors c'est important de se nourrir de sa parole et de la relation avec lui. De prendre du temps avec notre Seigneur, personnellement et aussi en communauté. Pour briser cette barrière aussi de l'incrédulité. Et laissons-nous surprendre par ce que Dieu veut faire, hein, au lieu de lui donner des idées, voilà, Seigneur, tu pourrais agir comme ci, comme ci, comme ça, non. Demandons-lui davantage de compréhension spirituelle, en laissant le Saint-Esprit renouveler notre intelligence, nous révéler les plans du Seigneur, ses projets. Et remettons-lui aussi notre vécu, notre passé, nos blessures, nos manques, nos limites. Remettons-lui tout ça. Abandonnons-nous vraiment entre ses mains et laissons-le venir restaurer, guérir, transformer, relever. Et croyons qu'il peut faire quelque chose avec nous, en nous, au travers de nous. Et il veut nous faire participer à son œuvre. Et pour ça, il va nous donner les capacités dont nous avons besoin. Alors, je propose qu'on termine par la prière. Seigneur, merci parce que toi, tu es illimité, tu es au-delà de tout ce qu'on peut imaginer ou penser. Et Seigneur, tu désires qu'on puisse vraiment avoir foi en toi et qu'on puisse te laisser agir en nous, au travers de nous, qu'on puisse vraiment, Seigneur, voir plus ton œuvre dans nos vies. Seigneur, c'est ce qu'on désire. Et Seigneur, viens à notre aide, chacun de nous, Seigneur. On te remet tout ce que nous sommes. C'est toi qui peux venir transformer. Seigneur, qu'on puisse vraiment s'enraciner dans ton amour, s'enraciner dans ta parole, et qu'on puisse devenir tel que tu désires qu'on soit, qu'on puisse vraiment entrer dans ton projet pour nos vies, chacun de nous. Merci, Seigneur. Amen.